de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pardon, pour nous interroger sur les virus. Tiens donc, les milliards de virus avec lesquels nous cohabitons. Pour le pire, on le sait bien, en cette période de pandémie, mais pas seulement. Saviez-vous que ce sont des virus qui ont permis aux mammifères que nous sommes de fabriquer du placenta? Que certains nous aident à lutter contre d'autres virus? Alors ennemis, souvent alliés, parfois, comment mieux comprendre, mieux connaître l'immense et si étrange famille des virus qui ne cesse de nous surprendre? On en connaît des minuscules et des bien plus gros. Certains se parasitent entre eux, d'autres sont capables de sauter la barrière des espèces et souvent à nos dépens. Bien plus vieux que l'humanité, les virus sont insolites et inclassables. Sont-ils même des êtres vivants? Autant de questions qui occupent les virologues en quête d'un vaccin contre la Covid, le VIH, Ebola, MERS et tant d'autres pathologies virales. Nous vous proposons de lever un peu le voile sur tous ces virus avec nos invités. La biologiste et vidéaste Tania Louis qui vient de publier « La folle histoire des virus » et le chercheur en virologie Olivier Schwartz de l'Institut Pasteur qui dirige l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur et qui nous fera partager ses toutes dernières pistes de recherche sur le SARS-CoV-2 autour de la question jusqu'où nous entraîneront les virus. Bienvenue dans un autre monde et dans une autre dimension. En ligne et en direct avec nous depuis l'Institut Pasteur à Paris, Olivier Schwartz, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci de prendre un peu sur votre temps pour être en direct avec nous. Vous êtes directeur, Olivier Schwartz, de l'unité de recherche virus et immunité de l'Institut Pasteur, autrement dit au cœur même du cyclone, en première ligne de la recherche sur ce nouveau coronavirus. Heureusement, ça avance, grâce à vos équipes notamment, mais pas seulement, hein, grâce à toutes les équipes de chercheurs à travers le monde. Vous nous donnerez évidemment des nouvelles dues et des vaccins à l'étude et à l'essai en ce moment, mais autour de cette énorme, immense question des virus. Il y en a plein, il y en a beaucoup d'autres que vous et la communauté des virologues étudiez, car c'est une famille aussi insolite que nombreuse, diverse, variée et aussi fascinante, il faut le dire. Bonjour Tania Louis.
Bonjour.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous. Vous êtes docteur en virologie, vous avez d'ailleurs soutenu votre thèse avec le professeur Olivier Schwartz qui était dans le jury, vous étiez donc fait pour vous retrouver sur nos ondes. Mais vous avez choisi, Tania, non pas la recherche mais plutôt la médiation scientifique, Dieu sait qu'on en a aussi besoin. Vidéaste, vous avez développé votre chaîne YouTube, on peut renvoyer aux auditeurs internautes sur biologie tout compris, les petites manips ou encore sur Virovlog, tiens donc, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Vous venez de publier, Tania, aux éditions Humaine Science, un ouvrage très complet, passionnant, intitulé « La folle histoire des virus ». Alors c'est vraiment, hein, après vous avoir lu, une folle histoire que celle des milliards de virus, une bien étrange famille qui remonte loin, bien avant celle de notre humanité. Si je vous demande, Tania Louis, ce que c'est qu'un virus, si c'est vivant ou pas, rien que ça, rien que cette question-là, est assez difficile, hein. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre, Tania.
Bah, je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, en fait. Est-ce que les virus sont vivants? Et en fait, c'est très difficile d'y répondre parce qu'il n'y a pas de consensus sur la définition de virus et il n'y a pas de consensus sur la définition de vivant. Voilà.
Parti.
Donc les biologistes sont très très forts pour se mettre d'accord entre eux. Ça l'illustre très bien. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est pas tant la réponse à cette question que les réflexions qu'elle fait émerger. Parce que les gens qui défendent que les virus ne sont pas vivants, qui sont pour l'instant la majorité des spécialistes, se basent sur une vision des virus qui en général est très centrée sur la particule virale, l'unité de dissémination, alors que les gens qui vont défendre que les virus sont vivants se basent plutôt sur une vision des virus centrée sur la cellule infectée, qui n'a du coup pas du tout les mêmes propriétés qu'une unité de dissémination. Donc
et
ça
une
ouvre
unité
énormément de réflexions.
Tania Louis, une unité de dissémination, comme vous dites, c'est pas un virus, hein, ce sont de nombreux virus.
Bah, en fait, chaque virus est une unité de dissémination, mais l'arrivée de ce qu'on appelle une particule virale chez une personne ne suffit généralement pas à déclencher une infection. Il faut qu'il y en ait beaucoup plus que ça.
Olivier Schwartz, pour l'éminent virologue que vous êtes, est-ce que vous pensez que les virus sont vivants ou pas? Est-ce que vous pourriez nous donner, vous, une définition, selon vous, hein, des virus?
Alors, j'ai bien entendu ce qu'a dit Tania. Elle a fait une très belle présentation. Ben, moi, j'appartiens à la catégorie des personnes qui pensent que les virus sont vivants, tout simplement parce que, eh bien, ils sont capables de se reproduire, de rentrer dans une cellule, de se multiplier, de sortir de la cellule et d'infecter des cellules avoisinantes. Donc, on peut partir d'une unité infectieuse, d'une particule virale ou de plusieurs particules virales. Et elles vont s'amplifier du moment qu'elles trouvent un terreau, qu'elles trouvent à manger. Moi, je trouve que c'est vrai d'ailleurs pour toute entité biologique humaine, ce débat entre vivant et pas vivant, ben, c'est une notion qui évolue au cours du temps, mais c'est vrai pour nous tous. Nous sommes des êtres vivants, les hommes par exemple, mais si on nous envoie dans l'espace, on va pas vivre, on a besoin d'un écosystème. Eh bien, les virus, c'est la même chose, ce sont des particules vivantes lorsqu'elles sont dans leur écosystème et lorsqu'elles ont un avantage par rapport à nous, par exemple, c'est qu'elles peuvent sortir de leur écosystème et être inertes. Elles peuvent, c'est un peu comme une clé USB d'une certaine façon. Elle ne va pas fonctionner toute seule, mais si on la branche sur la cellule, sur un ordinateur, elle va pouvoir envoyer son programme génétique, modifier le comportement de la cellule et se propager.
Et les virus, on les pensait, on va revenir sur la taille, hein, plus tard on les pensait toujours minuscules, on sait qu'ils existent ou on sait qu'ils sont, et on travaille dessus depuis assez peu de temps, Tania Louis.
Oui, en fait c'est relativement récent, le mot virus, ça vient du latin qui veut dire poison, c'est utilisé depuis assez longtemps pour désigner toutes les choses microscopiques qui provoquent des maladies, mais c'est vraiment utilisé dans le sens qu'on emploie aujourd'hui uniquement depuis la toute fin du 19e siècle. La première utilisation du mot virus pour désigner un virus, c'est 1898. C'est-à-dire que quand Pasteur parlait de virus de la rage, par exemple, il n'utilisait pas ce terme dans le même sens que nous.
Et oui, c'était une différence entre microbe et virus.
C'est ça.
Les virus, alors c'est peut-être leur particularité, nous poussent vraiment à tout redéfinir, on l'a dit, entre le vivant, pas le vivant, à sortir des cases ou à inventer d'autres cases ou d'autres formes de classification. D'où le sens de la question, soulevée tout de suite par mon confrère de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Foll.
Pendant un moment, on pensait que les virus, comme les autres branches de la vie, étaient issus de LUCA, le fameux Last Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun à toute la vie. Et là, les dernières données sur les mimivirus, je crois, montraient qu'au contraire, il n'en faisait pas partie. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut faire remonter LUCA à plus vieux, ou est-ce que en fait, les virus sont vraiment une autre forme de vie que nous ?
Qui veut, qui peut répondre ? Tania Louis, auteure de La folle histoire des virus.
Clairement, c'est une question sur laquelle il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Hein, les spécialistes s'écharpent un peu, simplement parce qu'on ne peut pas remonter au moment où la vie est apparue sur Terre il y a plus de 3,5 milliards d'années pour vraiment observer ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais de fait, donc, LUCA, c'est le Last Universal Common Ancestor ou Cellular Ancestor, selon les traductions. Donc l'ancêtre de tous les êtres vivants qui possèdent des cellules, ce qui n'est pas le cas des virus. Et en fait, quand on compare les gènes des virus et les gènes de l'ensemble des autres organismes biologiques de notre planète, ils peuvent être très différents. On parlait de mimivirus, qui est un type de virus dit géant.
Bah, oui, chez certains virus géants, sont géants.
90% des gènes de certains virus géants ne correspondent à rien de connu. Donc c'est pour ça qu'on ne les classe pas avec le reste du vivant, simplement parce qu'ils sont trop différents. C'est comme si vous essayiez de faire un portrait de famille avec une fougère et des chats. Bah clairement, la fougère, vous n'avez pas envie de la ranger avec les chats, spontanément. Là, c'est un peu pareil quand on compare les virus au reste des organismes biologiques de notre planète. Et une des hypothèses en vigueur, en effet, c'est que ce soit les reliquats d'une forme de vie différente qui se soit maintenue jusqu'à aujourd'hui.
Une forme de vie différente, les hypothèses les plus folles sur la folle histoire des virus. Est-ce qu'on a une idée du nombre, de la quantité des virus qui existent autour de nous, qui vivent ou qui sont en latence autour de nous, Tania ou Olivier, je ne sais pas qui veut répondre.
Une idée ferme, avis, non, on a des estimations en l'occurrence.
Olivier Schwartz.
Oui, je voulais rebondir sur le LUCA, le Last Universal Common Ancestor. C'est une notion passionnante, effectivement. Traditionnellement, il y a trois branches du vivant qui sont représentés dans cet arbre de la vie. Il y a les archées, donc ce sont des bactéries ancestrales, des bactéries et les eucaryotes. et les virus étaient oubliés jusqu'à présent. Et ça serait tout à fait logique de rajouter une quatrième branche qui serait même antérieure à ce LUCA et qui rendrait compte de l'immense diversité des protéines et des séquences virales. Probablement, les virus, ce sont les entités biologiques les plus fréquentes sur Terre. Si on prend 1 millilitre d'eau de mer, on sait qu'il peut y avoir jusqu'à 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million à 100 millions de particules virales dans 1 millilitre d'eau. Et donc, si on ramène ça à l'échelle de la planète ou à la taille de l'océan, on arrive à des chiffres monstrueux, 10 puissance 30, c'est-à-dire 1 suivi de 30 zéros. Et donc, c'est la force majeure, c'est ce qui est responsable de la biodiversité, du cycle de vie à partir du plancton jusqu'aux baleines, j'ai envie de dire. Et donc, c'est la force de cette quatrième branche qu'il faut inclure dans l'arbre de la vie qui est à l'origine de la vie sur Terre.
Donc on se rend compte que c'est énorme, c'est monstrueux, c'est tout un domaine que vous explorez hein, en tant que virologue. Tania Louis, dans votre ouvrage, La folle histoire des virus, on découvre, parce qu'on les considère comme des ennemis, et principalement aujourd'hui évidemment, mais on découvre que les virus si nombreux dans l'univers, cette autre forme de vie, peuvent aussi être des alliés. Et en tout cas, c'est grâce à eux, si j'ose dire, qu'on est des mammifères, c'est ça, qu'on a du placenta.
Oui, alors pour replacer un peu dans le contexte, si on compte le nombre de virus qu'il y a sur Terre, on estime aujourd'hui, donc il y en a le chiffre que donnait Olivier Schwartz, 10 puissance 30, ça correspond à 100 millions de virus par grain de sable sur notre planète.
Voilà,
ça place un peu l'énormité de la chose,
ouais.
Et on estime qu'il y en a des milliards d'espèces différentes, mais heureusement, toutes ces espèces ne nous en veulent pas. Hein. Personnellement, déjà les virus n'ont aucune volonté, donc ils ne nous
c'est
en
ça.
Veulent pas, mais surtout elles n'infectent pas forcément les humains. Et c'est une des choses qui est très discutée en ce moment, c'est que les virus peuvent aussi être utilisés pour lutter contre les bactéries, par exemple, puisqu'il y a des virus qui infectent naturellement les bactéries et qui pourraient être des alternatives aux antibiotiques. Et au-delà de ce rôle positif-là en médecine, effectivement, nous coévoluons avec les virus depuis l'apparition de l'espèce humaine et depuis l'apparition des mammifères avant ça. Et dans notre génome, il y a plein de traces de génome de virus. On pourrait considérer que c'est un peu l'équivalent génétique des fossiles. Et parmi ces fossiles, il y en a qui sont encore suffisamment bien conservés pour s'exprimer un peu, dont un qui permet la production d'une protéine qu'on retrouve dans nos placentas. Alors quand je dis « nos », c'est les placentas humains, mais aussi tous ceux des mammifères chez lesquels on en a cherché, et même ceux d'une espèce de lézard vivipare, dont les femelles portent les petits. Donc il y a clairement un lien très fort entre la présence de cette protéine de virus et la capacité à se reproduire de façon vivipare.
On pourrait dire que les virus nous ont façonnés et continuent de nous façonner, on peut le dire comme ça ?
Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que les virus sont une force d'évolution qui s'exerce sur nous, mais nous, à l'inverse, sommes aussi des contraintes évolutives qui s'exercent sur les virus.
Et comment faire le tour ou comment explorer, ça pose vraiment la question à tous les deux, cette énorme, monstrueuse famille des virus, autre famille des vivants. On s'y intéresse, Olivier Schwartz, quand il, non pas quand ils nous en veulent, mais quand ils s'attaquent à nous. Comment est-ce qu'on fait pour explorer, vous qui êtes virologue, ce continent énorme?
Oui, alors Tania a rappelé certains chiffres, plusieurs centaines de milliers ou millions d'espèces virales distinctes. Combien infecte l'homme ? Très peu. On peut retrouver environ 5000 espèces chez l'homme, c'est ce qui est estimé, différentes, qui sont capables de nous infecter. Mais seulement une centaine sont dangereux. Donc l'immense majorité de la planète virale qui nous entoure, eh bien, elle est totalement indifférente aux êtres humains. En revanche, certains sont donc capables de nous infecter. Certains ont même été domestiqués par l'homme. Donc Tania a rapporté l'histoire des rétrovirus dits endogènes que nous avons capturés et domestiqués pour pouvoir assurer notre propre développement. D'ailleurs, ça pose des questions très intéressantes. Nous, on a travaillé sur ces aspects. Notre corps, notre organisme est équipé de défense antivirale pour les ou antibactérienne pour c'est l'immunité innée, on en parlera peut-être tout à l'heure entre autres. Et bien donc c'est l'interféron qui va induire donc des protéines qui vont avoir une activité antivirale contre les virus dits exogènes. Et bien nous on a pu montrer que un effet secondaire de cette activité antivirale exogène, c'est un effet contre nos propres virus qui ont été domestiqués de façon paisible. Donc finalement, la réponse antivirale qui nous protège, le revers de la médaille, c'est que ça peut avoir des conséquences délétères sur le développement du placenta et sur le déroulement normal de la grossesse. Donc l'équilibre entre virus et homme est en constante, et femme est en constante évolution, et le moindre déséquilibre, le moindre passage ou la brèche dans les contacts entre les animaux, les hommes et les virus peut avoir des conséquences très graves. C'est par exemple ce qu'on appelle le franchissement de la barrière d'espèce, quand un virus qui est normalement paisible dans son environnement habituel change d'espèce, et c'est ce qui est arrivé par exemple pour HIV, pour Ebola, pour coronavirus récemment. Donc c'est ce changement, ce franchissement de barrière d'espèce qui induit une pathogénicité, du moins au début, et progressivement, si on avait assez le temps d'attendre, au bout de plusieurs milliers d'années, eh bien on s'habituerait totalement par exemple à ce nouveau coronavirus. Il ne faut pas oublier que près de 50% des infections avec ce nouveau coronavirus sont asymptomatiques. Donc chez la moitié des personnes qui vont être infectées, le virus est déjà paisible. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde.
D'où la difficulté, la complexité autour de ce nouveau virus. Je peux citer l'étude que vous avez, dont vous avez été le rédacteur principal, Olivier Schwarz, dans The MBO Journal, sur l'immunité innée et la fusion des cellules infectées par le SARS-CoV-2 qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'il y a urgence polémique autour de la question jusqu'où nous entraîneront les virus. Vous avez souhaité, Olivier Schwarz, entendre un des tout derniers morceaux des Rolling Stones enregistré juste avant le premier confinement au titre prémonitoire Ghost Town sur RFI.
Living in a ghost.
Town, les Stones sur RFI, ville fantôme, chanson quasiment prémonitoire. Autour de la question jusqu'où nous entraîneront les virus, c'est votre choix musical, Olivier Schwartz, et on le partage. Vous venez de nous parler du franchissement de la barrière des espèces et que c'est là où les virus posent problème. Je rappelle que vous êtes directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Est-ce que vous vous attendiez, Olivier Schwartz, à une pandémie comme celle générée par ce virus-là, SARS-CoV-2?
Eh bien, on sait que régulièrement, toutes les dizaines d'années environ, il peut y avoir des nouveaux virus justement qui franchissent cette barrière d'espèces et donc qui peuvent provoquer des épidémies de taille plus ou moins importante. Donc, en particulier, ça peut être des virus respiratoires, comme les autres virus de la famille des coronavirus ou certains virus de la grippe. Ça peut être des virus transmis par des moustiques également. Mmh. Et à cause des changements climatiques, ce genre d'épidémies vont se reproduire également. Donc oui, on s'attendait à ce genre d'épidémie, mais à titre personnel, on ne s'attendait pas à ce que cela arrive. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive aussi intensément et que cela provoque une pandémie de cette taille. La dernière de cette taille, ça doit être l'épidémie de grippe dite espagnole il y a un siècle. Donc on est face à un événement qui arrive tous les siècles. Donc c'est quelque chose de, comme vous le savez, on en entend parler tous les jours. Mmh. Malheureusement, c'est une épidémie majeure parce que le virus, d'une part, a franchi la barrière d'espèce. Et d'autre part, il était très capable de passer ensuite d'un humain à un autre humain.
Oui, c'est ça.
Il y a eu des petites épidémies de coronavirus, par exemple en 2003 ou en 2013. C'était des épidémies très limitées. Le premier coronavirus en 2003 a infecté que 8000 personnes en Asie. C'est ce qu'on estime. Et il était beaucoup plus dangereux puisqu'il tuait environ 10% des personnes qui ont été infectées. Mais heureusement, il se propageait peu d'un individu à l'autre. Donc il y a deux caractéristiques qui font les pandémies. Et les pandémies graves, donc c'est la transmissibilité interhumaine après le passage et le franchissement de barrières d'espèces.
Tania Louis, vous qui venez de publier La folle histoire des virus, comment vous trouvez celui-là, pour reprendre ce que vient de nous préciser Olivier Schwartz? Il est particulièrement pervers, il ne tue pas tant que ça, mais il est très 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 contagieux.
Oui, en fait c'est un peu une épidémie où on a coché toutes les cases de la malchance depuis le début. C'est-à-dire qu'effectivement, aucun spécialiste n'est surpris par l'apparition d'une épidémie de coronavirus d'origine chinoise. C'est quelque chose qui est anticipé depuis un moment. Mais celui-là se propage très bien. Il est très contagieux d'humain à humain depuis le départ, au point qu'il se transmet par des aérosols, ce qui a quand même été discuté pendant un moment. Mmh. Et aujourd'hui, c'est un point qui n'est plus du tout un point de débat. Et paradoxalement, je pense que le fait que le taux de létalité soit faible est une limite, dans le sens où si on était confronté à un virus qui tuait jusqu'à 90% des personnes infectées, comme c'est le cas de certaines souches d'Ebola, il n'y aurait eu aucune hésitation sur le plan politique sur l'ampleur des mesures à mettre en place. Là, on est dans le cas où le virus tue beaucoup parce qu'il infecte beaucoup, mais son taux de létalité n'est pas très élevé. Et du coup, les décisions politiques sont nécessairement des compromis entre la gestion de la crise sanitaire et la gestion d'autres paramètres, qui sont loin de se limiter à la situation économique. Hein. Mais du coup, il faut composer un peu avec tout ça, et forcément, on ne met pas une réponse aussi forte que si on avait un virus aussi violent que celui du SARS-CoV-1 qui avait circulé en 2003-2004.
Bien sûr, Dieu nous garde, on y reviendra là-dessus, puisque par rapport au virus Ebola, on fête aujourd'hui même la fin de la 11e épidémie d'Ebola en RDC, on va y revenir. Mais est-ce qu'on pourrait dire, alors on est bien d'accord, hein, les virus n'ont aucune intention, mais qu'il est particulièrement malin celui-là, parce que finalement il se reproduit très bien, et ça c'est gagnant pour le virus. Est-ce qu'on peut parler comme ça des virus?
En fait, concrètement, comme tous les êtres de notre planète, les virus évoluent avec une prime à celui qui se multiplie le mieux. Le génome qui va se répandre, les caractéristiques qui vont se répandre, ce sont celles des individus qui se multiplient le plus efficacement. Il se trouve que pour un virus, bien se multiplier veut dire bien infecter des hôtes dans lesquels il peut se reproduire. Donc effectivement, il y a un lien. Mais on peut tout à fait infecter des hôtes et les parasiter pour se multiplier sans pour autant les rendre malades.
Ah oui, ça c'est encore mieux, oui, bien sûr. Voilà. Olivier Schwartz, vous voulez réagir?
Oui, ce que je veux. Je remarquais que votre question était est-ce que le virus est malin, est-ce qu'il se multiplie bien? Donc je crois comprendre que vous faites partie de ceux qui pensent que le virus est un être vivant.
Voilà, moi je pense qu'il est vivant, par contre effectivement je pense qu'il n'a aucune intention.
Non, il n'a pas d'intention en tant que tel, mais comme le rappelait Tania, l'objectif du virus c'est de se multiplier s'il a un objectif. Et donc, le fait de tuer trop rapidement son hôte, à la longue, n'est pas favorable à une propagation. Mm-hmm. Donc, le virus cherche à se multiplier sans causer trop de dommages pour pouvoir justement atteindre le plus grand nombre de cibles.
C'est un bon vivant, ce virus-là. Qu'avez-vous appris? Alors, peut-être pas en quelques mots, Olivier Schwarz, mais qu'avez-vous appris, notamment sur le lien entre notre immunité innée et l'infection par ce virus? Qu'avez-vous appris, compris de ce virus-là?
Alors, ce qui est intéressant, on parle des travaux à l'Institut Pasteur, des travaux dans le monde entier. Nous, on s'était préparé d'une certaine façon, puisque en 2018, on fait tous les 5 ans notre plan stratégique. Moi, j'étais directeur scientifique à l'époque de l'Institut. Et donc, le premier axe stratégique, c'était les maladies infectieuses émergentes. Mmh. Donc, on avait les prémices et on avait mis en place des outils qui nous permettaient de réagir très rapidement. Et par exemple, à l'Institut Pasteur, on accueille également, on a le CNR, le Centre National de Référence des Virus Respiratoires, dirigé par Sylvie Van Der Werf. Il y en a 2 en France, un à Paris et un à Lyon. Et donc, c'est en France, à l'Institut Pasteur, qu'on a reçu les premiers prélèvements et qu'on a pu très rapidement isoler le virus, mettre au point des tests diagnostiques et lancer toute une série de questions scientifiques. Et ce qu'on a appris, eh bien, donc on a exploré à la fois, je pense que ce qui est important dans la recherche actuelle contemporaine, c'est d'une part de la connaissance, développer de la connaissance quand il y a un nouveau microbe qui arrive. Il n'y avait pas beaucoup de spécialistes. Moi, je n'en étais pas un. À l'Institut Pasteur, j'étais spécialiste des virus humains. On travaillait sur le VIH ou sur Zika. Mais on a pu appliquer nos questions, nos outils à ce nouveau virus. Et on a travaillé sous un mode de task force. Donc, on a des réunions encore. On a plusieurs régulières, une fois par semaine, de toutes les équipes. Donc, on fait de la recherche fondamentale pour justement générer de la connaissance. Et en parallèle, et l'un ne va pas sans l'autre, on a des applications de la recherche avec des mises au point de tests diagnostiques, évaluation de stratégies thérapeutiques et mise au point de candidats vaccins, que ce soit à l'Institut Pasteur ou dans le monde, bien sûr.
Ça
et
avance,
moi, à titre personnel, qu'est-ce qui m'a étonné avec ce virus? Donc nous, on s'intéresse beaucoup au laboratoire, au mécanisme d'entrée du virus dans la cellule. Mmh. C'est la première étape, finalement, de comment le virus va arriver à envahir sa cellule cible. Et donc, on étudie ce qu'on appelle la fusion du virus, c'est-à-dire comment les membranes du virus, puisque ce virus est enveloppé d'une membrane, peut fusionner avec la membrane de la cellule cible pour rentrer et se multiplier. Et on s'est aperçu que ce virus était capable de fusionner très facilement et qu'une fois que la cellule était infectée, elle pouvait même fusionner avec les cellules avoisinantes pour former ce qu'on appelle des syncytia, donc des cellules géantes multinucléées, et que cette entité infectieuse, comme mentionnait Tania tout à l'heure, est en fait très importante. Ce n'est non pas la particule virale seule, isolée, qui est probablement donc la propagation, le véhicule de l'infection, mais la cellule infectée elle-même. Et donc ça pose beaucoup de questions sur justement comment l'organisme reconnaît la cellule infectée. Est-ce qu'il reconnaît une cellule infectée différemment de particules virales libres, par exemple, flottant dans le milieu? Quelles sont les conséquences en termes d'inflammation? Est-ce que cette hyperinflammation qu'on a décrite et qui a lieu chez certains individus et pas d'autres, pourquoi donc c'est néfaste pour l'organisme? Parce qu'en fait, ce qui n'est pas néfaste, c'est pas le virus lui-même.
Mais c'est pas le virus en lui-même.
Dans la grande partie, c'est la réaction du système immunitaire. Il y a clairement deux phases dans la maladie, une phase virale où le virus se multiplie, puis après une phase de l'hôte, une phase inflammatoire. Et donc c'est ça qui m'a étonné, et c'est ça que nous continuons à étudier actuellement.
Comment réagissons-nous à ce terrible virus? Autour de la question jusqu'où nous entraînerons justement tous les virus, vous avez choisi cette fois-ci, c'est Tania Louis, une reprise en version virale justement du tube hein, antisocial par le groupe, ils ont un nom extra, Fast and Furious. On écoute Antiviral sur RFI et ça déménage.
En télétravail, tu masques ton visage, des sensations sociales. Tu marches tel un robot dans les rayons de casino. Les gens ne te touchent pas, y'a plus de barrières. Tu ne peux dialoguer qu'avec ton animal. Impossible de poursuivre ta vie sentimentale. Il te faudrait faire du sport pour pas que tu grossisses. Impossible de sortir sans voir la police. Antiviral, tu restes chez toi. Des stocks de potes, des toilettes, ça pour antiviral. En plus tu dois garder ton fils. C'est en restant reclus qu'on ne l'attrape plus. Qu'on ne l'attrape plus. Qu'on ne l'attrape plus. Qu'on ne l'attrape plus. Antiviral. Antiviral.
Antiviral, nouvelle version toujours aussi rock'n'roll et antisocial, signée du groupe Fast and Furious sur RFI. C'est vous qui l'avez voulu, Tania Louis, et on vous en remercie. Vous êtes docteur en virologie, médiatrice scientifique sur votre chaîne YouTube et auteur de La folle histoire des virus aux éditions Humaine Science. Nous sommes également en direct avec Olivier Schwartz à l'Institut Pasteur, où vous dirigez, Olivier Schwartz, l'unité virus et immunité. On est particulièrement content de fêter, oui c'est le mot, fêter avec vous aujourd'hui la fin, plus exactement l'annonce de la fin officielle de la 11e épidémie du virus Ebola en RDC. Je propose d'écouter le ministre congolais de la Santé, Eteni Longondo, qui s'exprimait ce matin même à Kinshasa, au micro de notre envoyé spécial Sonia Rollet.
Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola. Je remercie particulièrement tous les agents du ministère de la Santé, le membre du secrétariat technique dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. La victoire sur cette épidémie tient aussi de la résultante de la coopération internationale à travers nombre de nos partenaires qui ont apporté l'appui technique et financier à la présente riposte. Nous retiendrons également que le facteur du succès majeur de la riposte à la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola a été liée, entre autres, à la disponibilité de vaccins et de médicaments spécifiques contre la maladie à virus Ebola et au rapprochement de sites de prise en charge avancés vers la communauté. Néanmoins, le risque élevé de résurgence des épidémies reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé.
Avant de vous laisser réagir, Olivier Schwartz et Tania Louis, à ces propos du ministre de la Santé de RDC, qu'il a tenu ce matin, nous expliquer d'ailleurs pourquoi et comment rester vigilant, je propose de fêter la fin, même si elle n'est que provisoire, de cet épisode épidémique avec les soignants du centre de traitement d'Ebola de Katwa, en République démocratique du Congo. C'était le 13 mai 2019. Ces héros de la santé congolaise fêtaient avec les familles la sortie des patients guéris, oui guéris du virus Ebola. Thank you. On peut vraiment partager leur joie, souhaiter le meilleur aux soignants et à tous nos auditeurs, hein, nombreux en RDC, qui nous écoutent à Kinshasa sur 105 FM. Olivier Schwartz, on se réjouit, mais pourquoi faut-il rester vigilant face à ce virus-là, face à tous les virus potentiellement dangereux qui sévissent, notamment au sud, notamment sur le continent africain?
Oui, alors c'est une excellente nouvelle, on est heureux, encore une bonne nouvelle avec les nouvelles hier sur les candidats vaccins, enfin les vaccins contre Covid-19 qui fonctionnent apparemment très bien. Là, c'était une petite, entre guillemets, épidémie, puisqu'elle n'a touché que 130 personnes, je crois, récemment en RDC, et il y a quand même eu 55 morts, donc presque 50% de décès. Et donc c'est une bonne nouvelle, il n'y a plus de cas, si j'ai bien compris, récemment, et comme l'a rappelé le monsieur qu'on a, qui s'est exprimé,
le ministre de la Santé,
il y a eu récemment, il y a des traitements qui sont apparus contre Ebola. D'ailleurs, il y a Remdesivir, qui est une molécule qui a été testée également contre le coronavirus. Et surtout, il y a un vaccin qui a l'air de fonctionner. Et donc, on est capable maintenant de juguler ces épidémies. Il faut savoir qu'il y a un réservoir, là encore, animal pour Ebola. C'est probablement une espèce de chauve-souris, et donc le virus est probablement, là encore, adapté à son réservoir, et il y a toujours une possibilité de franchissement de barrières d'espèces. Et donc à chaque fois, maintenant, il va y avoir une lutte, enfin, s'il y a un nouveau franchissement de barrières d'espèces, il faudra une lutte de vitesse pour acheminer dans les régions touchées le vaccin ou les traitements. Mais maintenant, on est mieux armé qu'il y a encore quelques années, lorsqu'il y a eu des épidémies qui ont fait plusieurs milliers de morts.
Et précisément, est-ce que ce vaccin-là contre Ebola pourrait peut inspirer des chercheurs comme vous et d'autres qui, justement, aujourd'hui, travaillent et produisent de manière extrêmement rapide, hein, par rapport à l'arrivée de ce nouveau coronavirus, des candidats vaccins. Est-ce que ça peut inspirer? Est-ce que ce genre est-ce qu'on en apprend, finalement, sur cette monstrueuse et énorme famille des virus? Est-ce qu'on en apprend de chaque épidémie?
Bien sûr, chaque virus est différent, chaque virus a son mode de vie, chaque virus préfère infecter tel ou tel type de cellule, chaque virus va préférer avoir de l'ADN ou de l'ARN comme matériel génétique, mais tout ce qui est appris d'une espèce virale peut servir à la fois en termes de connaissances ou pour mettre au point des candidats vaccins. Ce qui est apparu là pour l'épidémie de coronavirus, c'est que heureusement, il est entre guillemets facile à neutraliser. Et ça, on s'en est aperçu rapidement en culture cellulaire ou en prenant du sang de patients guéris ou convalescents. On a pu voir que les anticorps produits par l'infection naturelle avaient un fort pouvoir neutralisant. Donc ça, c'était une bonne piste. Un premier signe encourageant pour la mise au point d'un vaccin. Il y a eu d'autres signes encourageants, c'est que le virus mute, mais pas tant que ça, finalement, jusqu'à présent, et que les anticorps sont dits à large spectre. Les anticorps produits par une personne vont bloquer la multiplication de virus qui peuvent être présents dans d'autres êtres humains. Donc, puisqu'on n'est pas infecté par un virus, mais par une famille de virus, et donc chacun a des cousins plus ou moins éloignés. Mais en l'occurrence, là, les cousins viraux sont très proches entre individus.
Oui, rappelons.
Et une autre bonne nouvelle, c'est que par rapport au VIH, par exemple, où il y a depuis plus de 30 ans ou 40 ans une recherche vaccinale qui n'a pas porté ses fruits, c'est que le virus est beaucoup plus facile à neutraliser et les anticorps sont faciles à produire par l'organisme lors de l'infection. Et donc, on a pu faire produire, avec différentes stratégies vaccinales, des anticorps à fonction neutralisante. Et une autre bonne nouvelle, et donc c'est un développement technologique très important. Il y a eu, comme vous le savez, plusieurs dizaines de candidats vaccins qui sont en phase clinique, préclinique. Et il y a une approche qui est fondée sur l'utilisation d'ARN, l'ARN messager. Donc, on injecte une séquence génétique qui va permettre à l'organisme lui-même de fabriquer sa propre protéine et donc son propre vaccin. Mm-hmm. Et donc ça fonctionne apparemment très bien. Donc ce sont les deux, c'est la même stratégie qui est utilisée par Pfizer, dont on a entendu parler la semaine dernière, et Moderna, dont on a entendu parler il y a deux jours. Et donc cette stratégie, elle est très encourageante, bien que les résultats restent encore très préliminaire, il y a très peu de recul. Là, on est à une semaine ou deux après le dernier injection vaccinale, puisqu'apparemment il faut injecter deux fois de suite à un mois d'intervalle pour avoir une bonne immunité. Mais néanmoins, sur 30 000 personnes dans l'essai Moderna et à peu près le même nombre dans l'essai Pfizer, il y a eu une protection très efficace, dont vous avez entendu parler, entre 90 et 95%, contre la possibilité de devenir infecté par le virus. Et ceux qui ont été infectés et qui étaient vaccinés ont développé une forme apparemment moins grave. Donc ça, c'est très important, parce que dans ces essais vaccinaux, il y avait des personnes d'un certain âge qui avaient été incluses, et on sait pour le coronavirus qui circule actuellement, c'est que ce sont les personnes les plus sensibles et les plus à risque sont les personnes de plus de 60-65 ans. Et donc là, le vaccin a l'air de fonctionner chez ces personnes. Donc tout ça sont des nouvelles préliminaires, mais très encourageantes.
Qui sont encourageantes par rapport à ce coronavirus, tant mieux, on a vraiment besoin de bonnes nouvelles en ce moment. On a besoin aussi de comprendre comment fonctionnent ces virus, parce que finalement, comprendre que c'est pas un, mais une charge virale peut aussi nous aider à avoir l'impression de moins subir, et à comprendre que voilà, c'est notre environnement, on vit au fond dans un monde de virus. Autour de la question jusqu'où nous entraîneront les virus, il y en a tout de même certains qui nous font peur, et parmi nos peurs, est-ce que certaines sont vraiment fondées? C'est tout le sens d'une nouvelle question soulevée par un autre médecin, légiste de surcroît, mais aussi paléopathologiste et anthropologue qui s'intéresse beaucoup aux épidémies du passé. C'est Philippe Charlier qui était récemment notre invité. On l'écoute, la question est pour vous.
On a vu que des virus avaient été réactivés récemment, alors que ces virus avaient plusieurs dizaines de milliers d'années et venaient du permafrost. Est-ce qu'on a une idée de la limite chronologique ou temporelle de vitalité des virus? Est-ce qu'un virus de 100 000 ans, 200 000 ans, 500 000 ans, voire plus, seraient potentiellement réactivables? Quelle est la limite sur le plan morphologique, structurel? Et est-ce qu'il y a une limite d'ailleurs?
Qui veut répondre? Tania Louis peut-être?
Oui, alors je vais revenir juste rapidement sur deux petites choses qui ont été évoquées précédemment. Pour information, le vaccin qui a été utilisé dans la dernière épidémie d'Ebola, c'est un vaccin qui s'appelle Hervébo et qui est en fait basé sur l'utilisation d'un vecteur viral. Donc c'est un exemple de situation où on a utilisé des virus comme outil pour lutter contre d'autres virus.
C'est un virus qui nous permet de lutter contre un autre virus. Mais oui, très intéressant.
C'est ça. Et accessoirement, toutes ces épidémies, c'est aussi un plaidoyer, je trouve, pour la recherche fondamentale. Mmh. On a eu beaucoup de témoignages de Bruno Canard, qui est un directeur de recherche qui mène une équipe de recherche sur les coronavirus en France, et qui explique qu'en fait, il a eu énormément de mal à faire avancer ses travaux ces dernières années. Alors que si cette recherche fondamentale avait pu progresser et avait été financée, on aurait gagné du temps aujourd'hui finalement. Donc voilà, ne pas oublier l'importance de la recherche fondamentale et qui est malheureusement relativement malmenée en ce moment.
Et d'écouter les chercheurs qui disent attention, laissez-nous chercher, laissez-nous prendre notre temps pour chercher. Le temps de la recherche n'est évidemment pas celui d'une maladie, de l'urgence et encore moins celle de l'information. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et pour ce qui est de cette peur d'un virus du passé qui ressurgirait, du permafrost notamment, qu'en est-il, Daniel Louis?
Oui, donc c'est quelque chose qu'on évoque régulièrement parce qu'on sait bien, donc le permafrost pergélisol en français, mais c'est exactement la même chose, ce sont les sols qui ne dégèlent pas et ça représente quand même 20% des terres émergées sur notre planète. Voilà, donc il y en a un peu partout, notamment en altitude au niveau des Alpes, par exemple, donc c'est pas forcément quelque chose de lointain. Et dans ce pergélisol, il y a énormément de choses et notamment des corps de personnes qui sont décédées de virus comme la variole ou la grippe espagnole. Donc on sait qu'il y a enfoui là-dedans des virus potentiellement dangereux. Et on sait également que la congélation est un bon mode de conservation des virus. Donc là, l'exemple qui était évoqué, en fait, les deux virus qui ont été ranimés à partir de pergélisol qui avait 30 000 ans, ce sont des virus géants.
Des virus géants, des gros virus, parce que quand on dit géant, c'est... Voilà.
Donc ceci dit, il y a quand même... Une chose qui, à mon avis, fait qu'on ne doit pas trop s'inquiéter du permafrost, en tout cas en termes de virus, c'est que les virus résistent très mal à la décongélation si celle-ci n'est pas rapide. Or, le pergélisol est un sol. Quand il dégèle, il ne se met pas à couler, c'est un solide. Donc même s'il dégèle, si les virus sont coincés à l'intérieur, à part si quelqu'un se trouve à côté pile au bon moment par hasard et peut se retrouver infecté, les virus ne vont pas se déplacer seuls pour sortir du sol et aller chercher des hôtes potentiels. Il faut, à mon avis, beaucoup plus s'inquiéter des gaz à effet de serre qui, peuvent se libérer du permafrost, dont on connaît la présence et qui sont encore très peu pris en compte dans les modèles de réchauffement climatique. Donc le permafrost est une menace, mais pas du tout sur le plan viral, à mon avis.
Oui, par contre, ce qui est une menace dans le changement climatique, c'est effectivement notre proximité avec d'autres animaux, et ce sont ces virus, alors vous l'avez dit, ils se jettent pas d'une espèce à l'autre, c'est pas du tout comme ça que ça marche, mais ces communautés de virus qui peuvent franchir la barrière des espèces. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, Olivier Schwarz, et qu'est-ce qui est votre plus grand espoir?
Pour rebondir sur ce que disait Tania, effectivement, les virus peuvent être utilisés pour des stratégies vaccinales, comme Tania l'a rappelé, pour Ebola. Et c'est également le cas pour coronavirus, puisqu'il y a au moins deux candidats vaccins, celui de l'Institut Pasteur, qui est, lui, fondé sur le vecteur, c'est le vaccin de la rougeole, donc c'est le virus de la rougeole, qui est totalement inoffensif dans le cas du vaccin, et qui est très efficace, et qui a été modifié pour servir de véhicule pour vacciner également contre le coronavirus.
Ça, c'est, dans le, ça c'est pour le candidat vaccin de l'Institut Pasteur, Olivier Schwarz.
Voilà. Mm-hmm. Il y a aussi le candidat vaccin de Oxford avec AstraZeneca, qui est un autre virus. C'est un adénovirus, lui, de chimpanzé, qui a été utilisé pour véhiculer le vaccin. Donc, ce sont des outils très utiles. Et puis, ils sont même utilisés, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais j'y pense, bien sûr, en tant que vecteur de thérapie génique pour corriger les gènes, puisqu'ils peuvent rentrer dans les cellules, intégrer leur matériel génétique. Et donc, il y a déjà eu des essais pour, dans des cas de traitement de cancer ou de défauts génétiques ou de maladies génétiques. Et donc, on peut les domestiquer également encore plus pour soigner. Alors, qu'est-ce qui me fait peur? Eh bien, moi, je pense qu'on est bien armé. On a vu la réaction de la communauté scientifique, médicale, pour réagir rapidement. Ce qui me fait peur, c'est les croyances, peut-être, humaines. Mmh. Et on voit c'est normal, en face de peur et d'inconnu, les réactions irrationnelles, les fausses nouvelles, les fake news, les théories du complot qui prolifèrent. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à contrer. Et donc ça, c'est le rôle de scientifiques, de médiateurs. Tania fait...
Précisément, c'est effectivement... parce qu'on va en arriver à la fin de cette émission, mais ça a été votre rôle aussi là, Olivier Schwarz. Je vous en remercie beaucoup. Merci à vous, merci à toutes vos équipes aussi, à l'Institut Pasteur qui travaillait d'arrache-pied pour mieux comprendre ces virus, pour lutter aussi contre les fake news et les théories du complot. Merci infiniment, Tania Louis, de partager avec nous ce que vous savez et comprenez des virus. La folle histoire des virus, votre ouvrage, paru aux éditions Humaine Science, est à lire absolument. Et puis je renvoie aussi nos amis auditeurs et internautes sur votre chaîne YouTube, le lien est sur notre page. On aurait bien aimé passer un petit extrait de d'une de vos chroniques, notamment Virovlog, mais on n'a pas eu le temps parce que c'est passionnant. Vous revenez tous les deux, Olivier Schwarz, et Tania Louis, quand vous voulez. En attendant les vaccins, à lire absolument dans le numéro, un nouveau numéro de la revue 21, une formidable enquête intitulée « Autopsie d'un vaccin ». On est très loin des fake news, réalisées avant et pendant l'épidémie qui nous frappe. Très instructif à lire aussi dans cette excellente revue, accueillir en librairie un excellent interview de l'anthropologue Frédéric Keck sur les chasseurs de virus et beaucoup d'autres articles de fond pour prendre un peu de recul sur ce qui nous arrive. C'est ce qu'on essaye de faire avec Olivier Violas. Oh là là, non, c'est Hugo, mon cher Hugo Violas, de l'autre côté de la vitre avec son masque à la réalisation. Caroline Fillette en coulisses, Caroline Nachowski au micro pour vous servir. On vous donne rendez-vous lundi prochain, surtout restez curieux. Chers amis, auditrices et auditeurs, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.